Quatrième partie. Les lents mutants. Chapitre 1. Le pistolero s'adressa à Jake d'une voix lente, avec les inflexions ralenties et irrégulières de quelqu'un qui parle dans son sommeil. Nous étions trois, ce soir-là. Cuthbert, Alain et moi. On n'était pas censé se trouver là, car aucun de nous n'était sorti de l'enfance. On était encore dans nos langes, comme on disait alors. Si on s'était fait prendre, Cort nous aurait écharpé vif. Mais on ne s'est pas fait prendre. Je ne pense pas qu'aucun de ceux venus avant nous ne s'était fait prendre non plus. Un garçon devait porter les culottes de son père en privé, se pavaner devant le miroir, puis les raccrocher sur leur cintre. C'était l'usage. Le père faisait semblant de ne pas avoir remarqué qu'elles étaient accrochées différemment ou que son fils avait encore sur le visage le dessin des moustaches au bouchon noirci. Tu vois ? Le garçon ne répondit rien. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la lumière du jour. Le pistolero, en revanche, avait parlé avec fierté et précipitation pour combler le silence. Il ne s'était pas retourné vers la lumière lorsqu'ils avaient pénétré dans ce monde sous la montagne, mais le garçon, si. Le pistolero avait lu la défaite du jour dans le doux miroir des joues de Jake, du rose pâle au blanc laiteux, de l'argenté blafard aux dernières touches ocre du crépuscule, puis plus rien. Le pistolero avait allumé une torche et ils avaient poursuivi leur route. Ils finirent par installer leur campement. Aucun écho de l'homme en noir ne leur parvenait. Peut-être lui aussi s'était-il arrêté pour se reposer. Ou peut-être avançait-il en flottant dans l'air, sans lumière, à travers les chambres obscures. Le bal de la nuit des semailles. Les vieux l'appelaient parfois la comala. Ça venait du mot employé pour désigner le riz. Avait lieu une fois par an, dans le hall du couchant, reprit le pistolero. Son vrai nom, c'était le hall aux aïeux, mais pour nous, c'était juste le hall du couchant. Un bruit de ruissellement parvint à leurs oreilles. Un rite de cour, comme tous les bals de printemps, en somme, dit le pistolero, avec un rire de condescendance. Les murs inanimés transformèrent son rire en un sifflement, comme la respiration d'un idiot. Autrefois, on le lit dans les livres, c'était pour célébrer l'arrivée du printemps, qu'on appelait parfois la Nouvelle Terre ou le renouveau du Comala. Mais tu sais, la civilisation... Il laissa traîner sa phrase, incapable de décrire le changement inhérent à ce concept galvaudé, la mort du romantisme et la persistance de son ombre stérile et charnelle, un monde vivant de la respiration forcée, des paillettes et de la pompe. Les pas géométriques de cette valse des courtisans pendant le bal de la nuit des semailles, qui avait remplacé les fougueuses réjouissances plus sincères et plus folles, mais qu'il ne pouvait plus appréhender que par une vague intuition. La grandeur artificielle qui avait succédé aux passions véritables, qui autrefois bâtissaient des royaumes et les maintenaient en vie. Il avait trouvé la vérité à Mégis, avec Suzanne Delgado, pour la reperdre plus tard. Il était une fois un roi, aurait-il pu raconter au garçon. C'était né, ce roi d'Elde dont le sang, bien que dilué, coule encore dans mes veines. Mais c'en est fini des rois, fiston. Dans le monde de la lumière, du moins. Ils en ont fait quelque chose de décadent, finit par dire le pistolero. Un jeu, une mascarade. Dans sa voix perçait tout le dégoût inconscient de l'ascète et de l'ermite. Son visage, s'il avait été baigné d'une lumière plus vive, aurait trahi de la sévérité et du chagrin, la forme la plus pure de condamnation. Sa force essentielle n'avait pas été épuisée ou édulcorée par le passage des années. Le manque d'imagination qui persistait sur ce visage était incroyable. « Excepté ce bal, » conclut le pistolero, « le bal de la nuit des semailles. » Le garçon ne dit pas un mot, ne posa pas une question. Il y avait des lustres de cristal, du verre épais et des lampes à étincelles. Tout n'était que lumière, une véritable île de lumière. On s'était glissé sur l'un des vieux balcons, ceux dont on disait qu'ils n'étaient pas sûrs. On y avait mis des cordes pour interdire le passage. Mais on n'était que des jeunes garçons, et tu sais comment sont les garçons. Il faut que jeunesse se passe. Pour nous, tout était dangereux. Mais quel danger y avait-il là? Est-ce qu'on n'avait pas été conçu pour vivre éternellement? C'est ce qu'on croyait, même quand on discutait de notre mort glorieuse. On était au-dessus de tous les autres, et de là-haut, on voyait tout. Je ne me rappelle pas qu'aucun de nous ait parlé. On se contentait de boire la Seine des yeux. Il y avait une grande table en pierre à laquelle étaient assis les pistoleros et leurs femmes, à regarder ceux qui dansaient. Quelques pistoleros dansaient, eux aussi, mais seulement quelques-uns. Et c'étaient les jeunes. Celui qui avait ouvert la trappe sous les pieds de Hax était l'un d'entre eux, si je me souviens bien. Les plus vieux restaient assis, et j'avais l'impression qu'ils étaient un peu embarrassés par toute cette lumière civilisée. On les révérait, on les craignait, ces figures tutélaires. Mais ils ressemblaient à des valets d'écurie au milieu de cette foule de cavaliers avec leurs femmes ravissantes. Il y avait 4 tables circulaires encombrées de nourriture, et elles tournaient sans arrêt. Les garçons de cuisine allaient et venaient sans cesse, de 7 heures du soir à 3 heures du matin. Les tables étaient vraiment comme des horloges, et on sentait l'odeur du porc rôti, du bœuf, des homards, du poulet à la broche, des pommes au four. Les fumets changeaient à chaque nouvelle tournée, des entremets glacés, des sucreries, des broches gigantesques de viande flambée. Martin était placé à côté de ma mère et de mon père. Je les reconnaissais, même de si haut. Et à un moment, il a dansé avec elle, lentement, en tourbillonnant. Et les autres leur ont cédé la place sur la piste et ont applaudi quand ils ont eu fini. Les pistoleros n'ont pas applaudi, eux. Mais mon père s'est levé lentement et il a tendu la main vers elle. Et elle s'est avancée jusqu'à lui, le sourire aux lèvres, tendant la sienne aussi. C'était un moment de gravité intense. Même nous, on le sentait dans notre cachette. À cette époque, mon père avait pris le contrôle de son quatre-têtes. Il faut que tu intuites bien ça, le tête du fusil. Et il était sur le point de devenir Din de Gilead, sinon de tout le monde de l'intérieur. Les autres le savaient. Martin le savait mieux que personne. Sauf peut-être Gabriel Véris. Le garçon finit par intervenir, visiblement avec réticence. C'était votre mère? Si fait. Gabriel des Eaux, fille d'Alan, femme de Stephen, mère de Roland. Le pistolero tendit les mains devant lui en un geste moqueur qui semblait dire « Eh ben voilà, qu'est-ce que tu dis de ça ?» Puis il les laissa retomber sur ses genoux. Mon père était le dernier seigneur de lumière. Le pistolero baissa les yeux sur ses mains. Le garçon n'ajouta rien. « Je les revois danser, » fit le pistolero. « Ma mère est Martin, le conseiller des pistoleros. Je les revois danser, tourbillonnant doucement, ensemble ou séparés, répétant les vieux pas de cour. » Il regarda le garçon un sourire aux lèvres. « Mais ça ne voulait rien dire, tu sais. Parce que le pouvoir avait été transmis d'une manière qu'aucun d'entre nous ne connaissait, mais que nous comprenions tous, et ma mère était liée de façon viscérale à celui qui détenait et maniait ce pouvoir. N'en était-il pas ainsi? Elle était bel et bien revenue à lui à la fin de la danse, n'est-ce pas? Et elle lui avait serré les mains. Avait-il applaudi? La salle avait-elle résonné de leur joie quand ces jolis garçons et leurs ravissantes compagnes l'avaient applaudi et loué de toute leur force? Alors, est-ce ce qui s'est passé? De l'eau amère goûta au loin dans le noir. Le garçon ne dit rien. Je les revois danser, répéta le pistolero avec douceur. Je les revois danser. Il leva les yeux vers le toit de roche invisible, et l'espace d'une seconde, il parut sur le point de hurler vers le ciel, de le couvrir d'injures, de le mettre au défi. Aveuglément, ces tonnes de granit aveugles et muettes qui retenaient leurs minuscules existences, telles des microbes dans leur entraille de pierre. Quelle main aurait pu tenir le couteau qui a conduit mon père à sa mort ? « Je suis fatigué, » dit le garçon. Puis il se tut de nouveau. Le pistolero sombra dans le silence et le garçon se retourna et posa la joue sur sa main, dos contre la pierre. La petite flamme en face d'eux vacilla. Le pistolero se roula une cigarette. Il lui semblait voir encore la lumière de cristal dans l'œil du souvenir, entendre les hurrahs et les louanges à gorge déployées dans le vide de cette terre déjà écartelée qui faisait désespérément front contre l'océan gris du temps. Le souvenir de cette île de lumière le blessait amèrement, et il regrettait d'en avoir été témoin, comme d'avoir vu son père cocufié. Il faisait jouer la fumée entre sa bouche et ses narines en observant le garçon. « Ces grands cercles que l'on se dessine sur la terre, se dit-il, et on tourne, on retourne au départ, et le départ est de nouveau là, l'éternel retour, qui est depuis toujours la malédiction de la lumière du jour. Dans combien de temps reverrons-nous la lumière du jour ?» Il dormit. Lorsque le son de sa respiration fut devenu lent et régulier, l'enfant ouvrit les yeux et regarda le pistolero avec un amour souillé de nausée. Les dernières lueurs du feu lui attrapèrent un instant la pupille et s'y noyèrent. Il se recoucha.